Vous écoutez France Culture.
Réplique, pensée avec Montaigne, avec Frédéric Brahami et Pierre Manon. Penser avec Montaigne. J'aurais pu, je l'avoue, trouver un meilleur titre pour la conversation qui s'annonce, car celui-ci ne rend pas vraiment justice à l'auteur des essais. Montaigne pense indubitablement, et il nous aide à penser, mais ce qui le différencie de tant d'autres penseurs, c'est, pour le dire en termes kierkegaardiens, qu'il existe dans ce qu'il pense. Aussi ses lecteurs n'entretiennent-ils jamais avec lui un rapport purement intellectuel. Une autre relation se noue, une amitié naît dont Nietzsche a donné une définition que je voudrais proposer pour commencer aux deux philosophes qui sont aujourd'hui mes invités. Pierre Manon, dont le dernier livre porte sur les essais et s'intitule « Montaigne, la vie sans loi », Frédéric Brahami, qui a écrit, entre autres, « Le scepticisme de Montaigne ». Voici comment Nietzsche, dans la deuxième considération inactuelle, entend s'acquitter de ce qu'il considère être sa dette envers l'humaniste qui fait profession de jouir loyalement de son être. Du fait qu'un tel homme a écrit, le plaisir sur cette terre a été augmenté. Pour ma part, depuis que j'ai fait connaissance avec cette âme, la plus libre et la plus vigoureuse, il me faut dire de lui ce qu'il dit de Plutarque. À peine ai-je jeté les yeux sur lui qu'il me pousse une jambe ou une aile. C'est à côté de lui que je me rangerais si le devoir s'imposait de se choisir une patrie sur la terre. Feriez-vous le même choix? Reprenez-vous cette déclaration d'amitié à votre compte, Pierre Manon.
Il est difficile de prendre la parole après Nietzsche. Non, je ne ferai pas la même déclaration. J'ai beaucoup d'amis dans le passé. J'ai beaucoup d'amis à Athènes, à Rome. Et beaucoup d'auteurs avec qui j'ai vécu m'ont rendu le séjour de la Terre heureux. Mais Montaigne, il est vrai, vous l'avez dit tout de suite, a une qualité de présence, une intensité de présence particulière. Il introduit avec son lecteur une proximité inédite qu'aucun auteur n'avait envisagé possible avant lui et qu'aucun auteur, je crois, n'a obtenu après lui. Donc, Montaigne nous met devant une épreuve étrange. À la fois, il s'approche de nous avec une évidence particulière, et en même temps, pour que nous puissions, en quelque sorte, entrer dans son dialogue utile avec lui, il s'éloigne de nous et nous oblige à négocier l'amitié et l'admiration. Et je crois que ce qu'il y a de plus intéressant, étonnant, éduquant, si je peux dire, dans la rencontre de Montaigne, c'est cet effort permanent qu'il nous amène à faire entre la plus grande proximité et, je dirais, l'admiration la plus ouverte à l'étrangeté.
Oui, cela dit, Pierre Manon, dans votre prière d'insérer, vous dites que Montaigne nous captive, nous émeut, nous persuade. Et il est vrai, comme vous l'écrivez par ailleurs, que Montaigne pense à visage découvert, ce qui est une posture en effet très singulière, mais ajoutez-vous, Montaigne nous trompe. C'est une phrase terrible, ça.
Non, ce n'est pas une phrase terrible. C'est simplement que se dire pour un être humain, se dire à d'autres êtres humains n'est pas une opération simple. Il faudrait être d'une naïveté que je suis sûr vous ne partagez pas, de penser que un homme dit simplement la vérité sur soi parce qu'il dit la vérité sur soi. Montaigne nous enseigne que la vérité sur soi est difficile, d'abord parce que on l'a dit au milieu des hommes et que les hommes ont déjà des tas d'idées sur ce que doit être la vérité sur l'homme et sur celui qui parle. Donc commencer à vouloir dire la vérité sur soi, c'est s'engager dans une opération très compliqué, et j'ai essayé d'expliquer pourquoi la simplicité si aimable de Montaigne était aussi une ruse. Mais ça n'inculpe pas Montaigne, ça inculpe éventuellement la naïveté de certains lecteurs de Montaigne.
Qui noue peut-être trop vite une amitié avec lui. Alors vous, Frédéric Brahmi, vous reconnaissez-vous dans cette déclaration nietzschéenne?
Oui, j'ai aussi, comme Pierre Manant, plusieurs amis dans le passé, mais j'ai une amitié privilégiée pour Montaigne, et je comprends très bien l'admiration de Nietzsche pour Montaigne, puisque au fond, on pourrait dire que la proposition essentielle de Montaigne, c'est qu'il faut savoir jouir loyalement de son être. Comme vous l'avez remarqué tout à l'heure dans l'introduction, c'est sans doute une phrase essentielle des essais où tous les termes comptent. Hein. Il ne s'agit pas de jouir de soi, il s'agit de savoir jouir loyalement de son être. On a donc quelque chose comme un gai savoir ici. Et avec Montaigne, comme le dit Pierre Manant, la vie cesse d'être accusée. Hein. Le christianisme avait accusé la vie. La force du diable est dans les reins, dit Saint Jérôme, et Montaigne critique hein, cette position chrétienne. Et donc cet amour de la vie, ce service de la vie, j'aime la vie et m'emploie à la servir selon elle, écrit Montaigne, est quelque chose qui me touche particulièrement et qui fait que c'est en effet mon ami privilégié.
Et je crois d'ailleurs que c'est là que se noue le différent, parce qu'il me semble, Pierre Manant, que vous avez, et c'est ce qui fait d'ailleurs tout le charme, tout l'intérêt, tout l'enjeu de votre livre, vous avez un différent avec Montaigne.
J'en ai beaucoup.
Vous l'aimez beaucoup ?
J'en ai beaucoup
vous
de
en
différents.
Avez beaucoup. Mais alors, le différent, ben, bien sûr, mais alors, le différent principal, précisément peut-être sur cette phrase, jouir loyalement de son être, Montaigne dit ailleurs une phrase que vous citez, mes actions sont réglées et conformes à ce que je suis et à ma condition, je ne puis faire mieux. Nous nous demandons si l'argument qui s'achève dans « je ne puis faire mieux », écrivez-vous Pierre Manant, ne finit pas par expulser de la vie humaine toute règle, tout principe capable de la guider, tout critère du meilleur. Au fond, Montaigne et son nonchaloir en auraient rabattu sur certaines exigences fondatrices de l'humain et il nous proposerait une humanité seulement excusable. Et peut-être est-ce la raison pour laquelle vous n'êtes pas vraiment... vous êtes un lecteur passionné, mais pas vraiment l'ami de Montaigne.
Vous avez très bien posé la question. Montaigne est admirable, Frédéric Brahmi l'a rappelé, Montaigne est admirable pour critiquer les maladies qu'entraînent les idéaux sublimes, qu'il s'agisse des idéaux religieux ou des idéaux philosophiques. Ces idéaux sublimes qui accusent la vie. Et donc, Frédéric Brahmi l'a rappelé aussi, il s'agit de se rapporter à la vie selon elle et non pas selon une norme supérieure et extérieure à la vie. Simplement, si la critique des idéaux sublimes chez Montaigne est particulièrement profonde, pertinente, digne d'attention, le chemin sur lequel il s'est engagé ouvre à son tour toutes sortes de problèmes et de difficultés. Et effectivement, cette idée que ma vie peut être en quelque sorte le critère d'elle-même, que ma vie peut contenir dans son immanence ce qui la juge et ce qui l'excuse, c'est là un pari, si vous voulez, de Montaigne, sur lequel que je ne peux pas suivre. Il me paraît impossible à conduire jusqu'à son terme. D'ailleurs, Montaigne lui-même, me semble-t-il, ne va pas jusqu'au bout de cette démarche, puisque cette vie immanente à elle-même, cette vie qui jouit d'elle-même, elle ne peut être vivable pour Montaigne que quand elle garde l'admiration pour les grandes vies passées, quand elle garde cette ouverture de l'admiration. Et donc, Montaigne lui-même est pris dans cette tension entre la fidélité à soi, la fidélité à une vie qui n'est que ce qu'elle est, à une vie qui n'accepte en quelque sorte d'être normée par rien d'extérieur à elle, et en même temps, une vie qui, pour être vivable, doit rester ouverte à l'admiration pour des vies plus grandes. Et c'est simplement cette seconde démarche que je crois il faut pousser plus loin. Et personnellement, je m'interrogerai avec plus d'obstination que Montaigne sur ce que pourrait être cette vie plus grande qui serait la norme de notre vie.
Frédéric Brahmi.
Oui, je vois les choses un petit peu autrement sur l'admiration. En effet, Montaigne, sceptique, détruit toute norme absolue, transcendante et extérieure qui pourrait régler nos vies. Donc, est-on voué au laisser-aller ? Ou est-on voué à une espèce de complaisance à soi-même, à suivre finalement le mouvement de ses humeurs ? Eh bien, je trouve, moi, que la beauté de Montaigne, c'est que, n'ayant plus de normes transcendantes, il va chercher dans ce trésor qu'est la culture humaine, des exemples d'excellence qui lui servent précisément à se situer. Nous n'avons plus de normes extérieures, mais nous avons le portrait de Socrate. Et c'est en regardant le portrait de Socrate que Montaigne va essayer de comprendre où lui-même se situe. Nous avons le portrait des trois plus excellents hommes ou des trois excellentes femmes. Et nous avons aussi le modèle que constituent les animaux ou les paysans.
Trois excellentes femmes, c'est-à-dire ?
Il y a un chapitre qui s'appelle « De trois bonnes femmes ».
Ah oui, d'accord. Hein,
mais c'est-à-dire de trois femmes fortes, de trois femmes vertueuses.
Bon. Qui c'est ?
Je ne sais plus.
Excusez-moi, je ne connais pas les essais.
Donc, il me semble que oui. Que ce travail d'admiration, c'est presque un instrument épistémologique pour s'appréhender soi-même. Voilà. Donc, moi, c'est sous cet angle-là que j'ai lu ce travail d'admiration. C'est-à-dire que Montaigne ne cherche de se constituer des normes, mais qui soient des normes acceptables par lui-même, parce qu'en effet, il a fait son deuil, il a renoncé à l'absolu.
Alors, j'ajouterais simplement que dans le dernier chapitre des essais, où il dit « c'est une absolue perfection et comme divine de savoir jouir loyalement de son être », il prépare, si j'ose dire, la grande pensée de Pascal, « L'homme n'est ni ange ni bête, qui veut faire l'ange fait la bête », puisqu'il écrit de ces hommes en proie aux idées aussi sublimes, qu'ils veulent se mettre hors d'eux et échapper à l'homme, c'est folie. Au lieu de se transformer en ange, ils se transforment en bête. Au lieu de se hausser, ils s'abattent. Bon, c'était pour remettre ce beau texte en mémoire. Pierre Manant, vous vouliez ajouter quelque chose ?
Oui, il faut tout de même prendre la mesure du renversement que Montaigne est amené à opérer. Il rejette toute norme extérieure, il adhère à lui-même, il se présente comme... Il produit l'exemple d'une vie ordinaire. Au lieu des vies des hommes illustres de Plutarque, les essais de Michel de Montaigne, c'est-à-dire les essais d'un homme quelconque, d'un homme qui a un prénom, non pas d'un homme qui a accompli de grandes actions. Mais en même temps, il produit cet exemple d'une vie ordinaire. Et on voit comment, quand il parle de la philosophie, il dit Bon, la philosophie, je l'ai rencontrée tard. Et quand j'ai lu les philosophes, ben, je me suis rendu compte que c'était déjà ce que je pensais moi-même pratiquement dès ma naissance. Les médecins, bien sûr, ils ont un art, mais au fond, pour garder ma santé, suivre les humeurs de mon corps est bien plus utile qu'écouter les médecins. Donc, progressivement, Montaigne, en nous produisant l'exemple de sa vie ordinaire, de sa vie d'un homme quelconque, eh bien, se donne comme la pierre de touche de l'humanité. Et je crois que ce que, disons, l'admiration ordinaire pour Montaigne manque, c'est la prodigieuse audace de cette démarche. Parce que Montaigne ne cesse de, comment dire, nous venons de le dire de plusieurs façons, d'écarter les modèles des vies sublimes, les vies supérieures, les grands anciens, les saints chrétiens, bien sûr. Mais au terme de l'opération, c'est Montaigne lui-même, son âme et son corps qui sont la pierre de touche de l'humanité. Donc, c'est une opération singulière. C'est une opération d'une audace, d'une prétention au sens fort du terme, qu'il faut mesurer. Il est légitime de s'interroger sur... la validité de la dite opération.
Frédéric Brahmi, j'aurais quelque chose à dire, mais allez-y.
Montaigne ne s'étale pas lui-même, il ne nous raconte pas son histoire. Il raconte ce que c'est que la vie ordinaire, c'est vrai. Une vie basse et sans lustre, finalement, est autant une vie que la vie de César. Donc, que Montaigne fasse de lui-même la pierre de touche de l'expérience, enfin, ou en tout cas de la vie, je ne le crois pas vraiment. Parce que il me semble que cette prétention dont vous parlez émane en vérité d'une modestie incroyable. Pas d'une modestie au sens trivial et moral du terme, mais si l'on peut dire, d'une modestie ontologique. C'est précisément parce que Montaigne découvre qu'il n'est rien substantiellement, qu'il est incapable de saisir son âme, qu'il est incapable de savoir ce qu'il est. Plus je me fréquente et je me hante, plus je m'apparais comme un monstre, un miracle, et je suis étranger à moi-même. C'est précisément parce que Montaigne a, en quelque sorte, détruit avant la lettre, ou critiqué avant la lettre, le cogito cartésien ou toute théorie de l'âme-substance, qu'il se découvre comme n'étant rien. Et se découvrant comme n'étant rien, il ne peut s'approcher... que en dialogue permanent avec des autres figures. Donc, il me semble que si prétention il y a, c'est une prétention qui émane d'une conscience lucide de sa propre vacuité intérieure, de sa propre insubstantialité. Et c'est ça, en effet, la grande modernité de Montaigne. C'est pour ça qu'il plaisait sans doute aussi tellement à Nietzsche. C'est qu'il dit « Nous sommes tous de l'opin, nous sommes un patchwork, il n'y a pas de sujet substantiel maître de soi. » l'homme a comme tâche, a pour tâche de se construire lui-même.
Pierre-Marie. Alors, modestie ontologique, il est modeste pour l'homme en général, mais il n'est pas modeste pour lui. Il a cette, à plusieurs reprises, vous le savez aussi bien que moi, ou mieux que moi, cette proposition selon laquelle il se connaît entièrement lui-même. Il dit à plusieurs reprises, aucun mouvement de mon âme ne m'échappe. Je sais exactement quand je fais le mal, je sais que je le fais. Donc, prétend à une connaissance de soi qu'aucun, en quelque sorte, prédécesseur, connaissance de soi à laquelle aucun prédécesseur n'avait prétendu. Donc, je maintiens, si vous voulez, ma proposition. Il se donne comme norme, pierre de touche de l'humanité, parce que il est celui qui se connaît entièrement lui-même. Oui. Et je crois qu'il y a là... Nous pouvons admirer son audace. Et si je vis avec lui, si j'ose dire, depuis 15 ans, c'est parce que je suis comment dire, impressionné, bouleversé, troublé par cette prétention. Mais c'est véritablement une prétention exorbitante.
Oui, en même temps, vous parlez de prétention exorbitante et vous reconnaissez aussi que, Pierre Manant, que Montaigne ne cesse de rabrouer, même de fouler aux pieds, pour reprendre son expression, l'orgueil, la fierté humaine. Frédéric Brahami a parlé d'insubstantialité. Il me semble qu'il y a chez Montaigne, et c'est pour ça que personnellement je noue une amitié avec lui, surtout une reconnaissance et même un humanisme de la finitude. L'idée que l'homme ne peut pas accéder au fondement ultime, et par exemple cette phrase naît quand même aussi d'une réflexion sur les guerres civiles de religion, l'obstination et ardeur d'opinion et la plus sûre preuve de bêtise, est-il rien certain, résolu, dédaigneux, contemplatif, grave, sérieux, comme l'âne. Et il y a cette phrase célèbre, c'est mettre ses conjectures à un bien haut prix que d'en faire cuire un homme tout vif. D'où d'ailleurs l'intérêt extraordinaire du chapitre sur la conversation de la conférence où Montaigne dit que ce qu'il adore, c'est précisément qu'on réfute ses opinions. Il aime l'adversité dans la conversation, précisément parce que à travers cela, ce qu'il pense peut être mis en question, il peut aller au-delà de ce qu'il sait ou de ce qu'il croit savoir. Donc il introduit quand même dans un monde qui s'appuie sur certaines certitudes, théologiques notamment, un principe d'incertitude dont on peut, me semble-t-il, lui savoir gré, non pas parce qu'il s'installerait dans l'incertitude, dans le relativisme, mais parce que ce monde est forcément plus vivable. Donc je crois qu'il faut aussi, je crois que c'est difficile de lire Montaigne en oubliant cette critique du fanatisme dont nous avons toujours besoin, puisqu'il n'y a pas si longtemps, Simone de Beauvoir pouvait écrire « La vérité est une, l'erreur multiple, ce n'est pas un hasard si la droite professe le pluralisme ». Bien, mais donc voilà, nous en avons connu un certain nombre de variantes et nous ne sommes pas à l'abri du tout d'un retour de ce qu'on appellerait plutôt aujourd'hui l'idéologie que le fanatisme.
Oui, mais bien sûr, la critique du fanatisme par Montaigne est d'une force de conviction, d'une drôlerie aussi, d'une immédiateté, très impressionnante. Je veux dire, aujourd'hui encore, après tant de siècles, cet aspect de son œuvre nous parle immédiatement, nous saisit immédiatement. Bien sûr, nous l'embrassons sur les deux joues pour cela. Mais la conférence, c'est, vous voyez quand même les ruses de Montaigne. Ce chapitre est admirable. Pascal dira l'admirable auteur de l'art de conférer. C'est ainsi qu'il désigne Montaigne. Mais dans cet immense livre, Montaigne n'évoque, je le mentionne dans mon livre, Montaigne n'évoque aucune conférence. Il dit, moi j'adore que l'on me contredise, j'adore que l'on me fasse changer d'avis. Mais dans les essais, il n'évoque aucune conversation où qui que ce soit l'aurait fait changer d'avis. Et non seulement il n'évoque aucune conversation où qui que ce soit l'aurait fait changer d'avis, il n'évoque aucune conversation pratiquement avec Étienne de la Boétie. Et il dit même que, et c'est un point central et qui est trop peu remarqué, il dit même qu'il n'a jamais changé d'avis sur aucune question importante depuis qu'il est arrivé tant soit peu à l'âge de raison. Il n'a jamais changé d'avis. Donc, il y a là quand même quelque chose d'étrange, si vous voulez. Il y a ce contraste entre, en effet, l'ouverture d'un espace de discussion illimité où chacun propose sa vérité, accepte la contradiction de l'autre et tous nous allons gaiement nous disputant et délibérant de la vérité. Et en même temps, celui qui nous propose ce programme que nous embrassons tous et que nous, pour lequel nous nous déclarons tous volontaires, celui qui propose ce programme, lui-même, et si j'ose dire, installé dans une certitude de soi, invulnérable, une certitude de soi dont il ne nous laisse pas la moindre chance de douter. De façon très répétée, encore une fois, il dit qu'il n'a jamais changé dans ses opinions principales.
Alors voici ce programme que Montaigne ne suit pas, mais je cite une phrase particulièrement belle. Quand on me contrarie, on éveille mon attention, non pas ma colère. Je m'avance vers celui qui me contredit, qui m'instruit. La cause de la vérité devrait être la cause commune à l'un et à l'autre. Frédéric Brahmi, suit-il ce programme ou non? Montaigne nous trompe-t-il?
Non. Non, je pense que l'art de conférer, de la conférence, le chapitre 8, c'est un discours de la méthode, en vérité. C'est un discours de la méthode, c'est-à-dire que c'est le seul moyen que nous avons de parvenir à quelque chose qui s'approcherait d'une vérité ou à quelque chose comme une vérité, c'est dans la confrontation. Dans la confrontation ordonnée, dans le conflit, dans la lutte intellectuelle. Qu'il ne nous dise pas qu'il ait fait cet exercice, ça ne veut pas dire qu'il n'en a pas fait. Il n'en rend pas compte, en effet, dans les essais. Mais ce n'est pas très important qu'il l'ait vécu ou pas, qu'il l'ait fait ou pas. Peut-être, d'autant que Montaigne est quelqu'un qui pense que le peuple... Peut-être que c'est quelqu'un qui, comme Nietzsche, pense que le peuple pour lequel il écrit n'existe pas encore. D'ailleurs, Pierre Manant a beaucoup écrit là-dessus, hein, sur ce peuple que va produire les essais, ce peuple de lecteurs de littérature que va produire les essais. Montaigne dit « Oh, un ami, pour qui écrivez-vous? Je n'ai pas avec qui conférer. » Donc, le fait que, de façon factuelle, il n'y ait pas de conférence dans les essais, ou que Montaigne ne nous dise pas qu'il est conféré dans sa vie, n'invalide pas ce discours de la méthode avant la lettre qu'est l'art de conférer.
Pierre Manant,
Nous avons là un désaccord sur l'importance de...
Mais justement, même temps, c'est dans la postérité de Montaigne, c'est aussi les lecteurs. Pourquoi sommes-nous les amis de Montaigne? J'ai toujours été frappé, moi, par l'existence d'au moins deux grandes définitions de l'humanisme. Et la postérité heideggerienne n'en retient qu'une. On parle de l'humanisme pour désigner en fait le programme galiléo-cartésien qui met l'homme au fondement de tout et qui doit lui assurer une maîtrise rationnelle de l'univers. Programme baconien aussi. Et puis, ça c'est un humanisme de la souveraineté, l'homme comme sujet, c'est-à-dire comme souverain. Or, ce que Montaigne enseigne, même si, dites-vous, il ne le pratique pas, c'est malgré tout bien plutôt un humanisme de la finitude. Il rappelle sans cesse l'incertitude où nous sommes, la difficulté, l'impossibilité même d'avoir une directe communication à l'être, la nécessité donc de la conférence pour accéder à quelque chose comme la vérité. Il ne veut pas du dualisme absolu entre l'homme et le reste de la création, d'où ses considérations, son admiration même, pour certains animaux, pour les animaux. Donc tout cela fait que, en effet, nous sommes partagés entre un humanisme de la souveraineté, un humaniste de la finitude, et nous devrions être davantage, surtout aujourd'hui, les héritiers de Montaigne, maintenant que nous pouvons, disons, contempler la part d'ombre, si vous voulez, du programme galiléo-cartésien. Donc voilà, c'est aussi ça. De quoi héritons-nous quand nous lisons Montaigne?
Vous dites humanisme de la finitude. Bon, c'est impressionnant comme formule, mais si j'ose dire, j'adhère à votre proposition. À ce point même que je mets un point d'interrogation à humanisme. Parce que le problème de l'humanisme, bien sûr, vous pouvez distinguer entre un humanisme de la souveraineté et un humanisme de la finitude, mais la difficulté qu'il y a avec l'humanisme, c'est cette proposition que l'homme peut être à lui-même sa propre norme. C'est cela, la difficulté, que l'immanence à soi de l'être humain puisse lui donner sa norme. C'est sur ce point, pour me répéter que j'ai mes doutes.
Oui, et c'est d'où votre titre, d'ailleurs, une vie sans loi. Une vie sans loi, c'est une vie totalement immanente à elle-même. Et vous penseriez donc que d'une certaine manière, c'est cela que nous a légué Montaigne. Donc vous parlez de son audace extrêmement singulière, mais par-delà cette audace singulière, il y a aussi le monde moderne que, semble-t-il, selon vous, Montaigne a contribué à façonner et dont l'évolution, pour les raisons que vous dites, vous inquiète. Cet abandon, en effet, de la tradition païenne de la magnanimité, de la tradition chrétienne de l'humilité, au profit de quoi ? C'est un peu de cela, mais c'est dans ce grand contexte que je vis votre propre lecture de Montaigne.
Au profit d'un mouvement de la vie qui, se débarrassant progressivement de toutes les normes extérieures, jouirait de plus en plus complètement de sa propre immanence dans une présence à soi étendue de plus en plus à l'ensemble de l'humanité. Voilà ce mouvement dans lequel, en effet, nous sommes engagés et au-dessus duquel j'ai l'habitude de suspendre des points d'interrogation. Oui.
Oui, mais cette immanence à soi n'est pas sans règles. Ou bien on accepte les grands modèles païens et chrétiens et donc on a des normes qui règlent nos vies. Ou bien on refuse ces grands modèles et donc on n'a plus aucune norme et on est dans le laisser-aller au sens négatif du terme. Il me semble que chez Montaigne, c'est très clair dans plusieurs chapitres et notamment dans le chapitre sur les cannibales. Il y a une norme immanente à la vie et qui est la souffrance et la sympathie ou la cruauté qu'elle entraîne. Dans le chapitre 14, Montaigne dit que les maux, les maladies, la pauvreté, la mort ne sont des maux pour l'essentiel que dans l'opinion. La mort n'existe que dans l'opinion, etc. La pauvreté aussi. Mais il y a une chose qui ne relève pas de l'opinion, c'est la souffrance. Et il prend l'exemple de l'animal, il dit l'animal est bien sans crainte devant la mort, mais si vous le battez, il souffrira. Bon, cette souffrance est un critère qui nous permet, même politiquement, de considérer qu'un régime ou un système qui produit le moins de souffrance possible est meilleur qu'un autre. Donc, la souffrance, la cruauté et la sympathie, c'est un dispositif normatif chez Montaigne qui est bien immanent à la vie, mais qui permet de distinguer et qui nous permet de comprendre autrement son relativisme. Montaigne n'a jamais écrit que tout se vaut.
Alors, Pierre Manant, vous n'êtes pas convaincu, ou peut-être que c'est un peu...
Sur ce point, Frédéric Brahmi a, je pense, raison. Montaigne porte des jugements catégoriques sur cette question. En effet, la cruauté, pour lui, c'est le vice par excellence et, d'une certaine façon, le vice unique et le vice presque incompréhensible de l'être humain. Comment peut-on mettre l'autre homme au supplice ? Et donc, ce jugement contient une norme, en quelque sorte. Il s'agit de minimiser ou de réduire au minimum la souffrance. Je partage tout à fait cette appréciation. Est-ce que cela suffit pour guider une vie ? Est-ce que cela suffit pour ordonner le corps politique ? Est-ce que minimiser la souffrance peut être une norme suffisante de la vie ? Après tout, nous avons commencé par Nietzsche. Comme vous savez, sur ce point, Nietzsche ne partagera pas cet avis.
Non. Alors, un mot quand même sur la cruauté. Il y a un passage absolument magnifique. Je crois que c'est le chapitre où il met en relation la couardise et la cruauté. La vaillance, dit Montaigne, s'arrête dès qu'elle voit l'ennemi à sa merci. Mais la pusillanimité, pour dire qu'elle est aussi de la fête, n'ayant pu se mêler à ce premier rôle, prend pour sa part le second, qui est celui du massacre et du sang. C'est absolument génial. Et on en voit des traductions au XXe siècle particulièrement atroces. Mais arrêtons-nous un peu sur la question des animaux, parce que là, on voit quand même la grande divergence entre l'humanisme de Montaigne et celui de Descartes et de Malebranche, Montaigne et La Fontaine, si vous voulez. Montaigne qui dit, et vous le citez tous les deux, qu'il se trouve plus de différence de tel homme à tel homme que de tel animal à tel homme, mais surtout nous devons la justice aux hommes et la grâce et la bénignité aux autres créatures qui en peuvent être capables. Il y a quelque commerce entre elles et nous et quelques obligations mutuelles. Peut-être cela ne fait-il pas une politique, mais... Nous avons vu les conséquences du dualisme radical. Nous sommes à l'époque de l'élevage industriel, par exemple. Et cela peut avoir donc une traduction politique. Cela peut nous amener vraiment à réfléchir de manière un peu critique à notre situation dans l'être. Nous humains.
Oui, je pense absolument que Montaigne... défait le dualisme cartésien et que précisément parce que le critère est la souffrance et que l'absence de cruauté ou la cruauté minimale est une norme morale, Montaigne permet de penser quelque chose comme un rapport nouveau à l'animalité. Il n'y a plus de différence spécifique entre les hommes et les animaux, et en effet, je pense que ça fait une politique, en fait. Alors, c'est sûr que ça ne fait pas une politique grandiose. Mais enfin, le critère « tu ne feras point souffrir » permet quand même de régler l'action, je trouve. Quand Montaigne critique les réformateurs extrêmes, il les critique en disant... C'est au fond comme s'il leur posait la question « vous voulez améliorer la société, mais combien de morts ?» Ça va coûter combien de morts, combien de souffrances. Et au fond, c'est presque un calcul qu'il nous demande de faire. On ne peut pas prétendre mettre en place une action politique si cette action politique doit se solder par un accroissement de la souffrance. Donc, moi, je trouve personnellement que le critère de la souffrance et de la cruauté est un critère suffisamment stable et suffisamment partageable pour fonder quelque chose comme une action politique ou morale.
Alors, je voudrais revenir sur les animaux, parce que vous aviez introduit le sujet. Ces passages sur les animaux sont des passages prodigieux. Ils ont un charme extraordinaire. C'est vrai qu'ils nous donnent une idée très... une idée délicieuse, si je peux dire, de notre proximité avec des vies animales qu'il peint comme si ces animaux nous ressemblaient. Alors chacun a sa spécialité, n'est-ce pas ? Il y a les thons qui font des mathématiques, il y a les alcyons qui font de la charpenterie, qui sont des charpentiers de marine et toutes sortes de choses amusantes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas si clair que cela, parce que il est clair, enfin, ce qui est clair, c'est que il inverse la Genèse, si vous voulez. Il renverse ce que Dieu dit dans la Genèse, qui met l'humanité en position de domination sur les oiseaux du ciel et les poissons de la mer. Et Montaigne renverse la proposition divine et dit, nous sommes tous sociétaires d'un même ensemble et aucun n'y a dans cet ensemble une supériorité qui lui permette de traiter de haut les autres créatures. Voilà. Jusqu'à quel point, ça certainement il le pense, et il pense que cela rabat notre caquet, c'est sûr. Mais jusqu'à quel point croit-il, n'est-ce pas, qu'il n'y a pas de différence d'espèce, de différence spécifique entre l'homme et l'animal? Lui-même explique qu'il dit cela pour nous humilier. Donc, je ne sais pas jusqu'à quel point il prend à la lettre ce qu'il dit. Et s'il nous demande de le prendre à la lettre, alors je dis non. Alors je dis, on manque quelque chose d'essentiel. On s'engage sur un chemin de destruction de l'humanité de l'homme. Si on le ramène à l'animalité, la proposition qui paraît avoir Alain votre aval que il n'y a pas de différence spécifique entre l'homme et l'animal, me paraît pas une proposition dans laquelle un humanisme, qu'il soit de la finitude ou d'autres choses, pourrait se reconnaître.
Non, mais d'ailleurs, non. D'ailleurs, cette proposition, Montaigne ne va pas jusqu'au bout, puisqu'il dit nous devons justice aux hommes et grâce et bénignité aux animaux. Donc, oui. Il y a un monde humain qui est le monde de la politique et le monde de la justice. Mais j'aurais une autre question, Pierre Manon, parce que vous dites, vous avez des amitiés parmi les auteurs, et on peut supposer que vos amitiés vont vers un certain nombre de grands auteurs anciens, je crois Aristote par exemple, mais ce qui est très intéressant, c'est que Montaigne, dans ce qu'il dit des animaux, s'appuie sur les auteurs anciens, il s'appuie sur Plutarque et aussi l'un de ses auteurs privilégiés, à savoir Lucrèce, hein, Lucrèce qui raconte de manière absolument magnifique dans le De Natura Rerum la douleur d'une mère qui d'une vache et dont l'enfant, le taurillon, est sacrifié. Et quand ce veau tombe immolé, exhalant de sa poitrine un fleuve chaud de sang, sa mère désolée parcourt les vertes prairies, cherche à reconnaître sur le sol l'empreinte de ses sabots fourchis, fouillant des yeux tous les endroits dans l'espoir d'y revoir peut-être le petit qu'elle a perdu. Et la description continue, elle est magnifique. Donc ce que Lucrèce indique là, c'est une communauté dans la souffrance, à l'encontre de Malebranche qui donnera un coup de pied dans un chien en disant que ça ne sent rien. Donc nous sommes effectivement à milieu des animaux-machines, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de différence spécifique, qu'il n'y a pas effectivement une cité politique réservé à l'homme, même si une politique vis-à-vis de l'animal peut aujourd'hui se concevoir.
Oui, bien sûr. Non, sur ce point.
Alors, très bien. Et dernier point que je voudrais élucider, parce que c'est un moment absolument passionnant de votre livre, vous dites que Montaigne, qui a renoncé à être le législateur des choses humaines, et on a vu pourquoi, eh bien, avec son entreprise, tout à fait extraordinaire, fonde la littérature. Alors, voilà. Nous sommes redevables à Montaigne de ce grand continent qui s'est détaché de la poésie et de l'éloquence, la littérature. Comment faut-il comprendre cette proposition, Pierre Manon ?
Oh, très simplement, la parole humaine, ancienne ou traditionnelle, était ordonnée autour des rassemblements humains effectifs, c'est-à-dire rassemblement de la cité, éloquence civique, rassemblement du prétoire, éloquence judiciaire, rassemblement de l'Église, éloquence religieuse. Donc la parole humaine était au service d'actions prédéfinies dans des communautés prédéfinies. Et Montaigne introduit quelque chose de tout à fait nouveau, c'est-à-dire une parole qui n'est pas gagée sur des grandes actions préalables, qui n'est pas gagée sur une communauté qui existe préalablement, mais une parole qui va produire sa communauté de destinataires, une parole qui va inventer son public, et une parole qui n'a pas de légitimité préalable, qui n'est pas légitimée par la cité, qui n'est pas légitimée par le tribunal, qui n'est pas légitimée par l'Église, qui est légitimée par cette chose absolument, au départ, illégitime, à savoir un monsieur, Michel de Montaigne, qui dit « je vais vous parler de quelque chose ». Et c'est une parole, donc, qui doit sans cesse se légitimer. Nous avons pris tellement l'habitude d'accepter la légitimité de la littérature, de la légitimité de la parole littéraire, que nous ne mesurons pas quelle invention, bouleversement, révolution cela signifie. Encore une fois, une parole qui n'a de légitimité qu'elle-même, de source qu'elle-même, et une parole qui doit à chaque fois produire son public. C'est tout ce que je veux dire avec cette proposition un petit peu emphatique que Montaigne fonde la littérature.
Oui, le chapitre du livre de Pierre Manant sur la littérature est proprement vertigineux. Montaigne, inventeur de la littérature, c'est-à-dire, si j'ai bien compris, une parole qui ne se réfère plus à des communautés ou qui ne se réfère plus à l'action en étant tributaire de l'action, en étant au service de l'action. Donc une parole qui parle pour elle-même, qui vaut par elle-même. Et du coup, j'ai compris en lisant ce chapitre que vraiment c'est Montaigne qui a inventé la conscience de soi. C'est-à-dire que au fond, ce livre, les essais de Montaigne, est un livre dans lequel Montaigne prend conscience de soi par l'écriture. Hein, il y a ce passage extraordinaire où il dit « Je n'ai pas plus fait mon livre que mon livre ne m'a fait ». Hein, je suis finalement la créature de mon livre. Et c'est ça, au fond, la littérature. C'est-à-dire que je prends conscience de moi dans le récit distancié que je fais de ma propre vie, peu importe quelle est de la valeur ou pas. Ce qui compte, c'est la distance par rapport à moi et à ma représentation des choses qui s'institue dans l'acte même d'écrire. Et au fond, on pense à Ricoeur, qui disait que l'identité, elle est narrative, c'est-à-dire que l'identité personnelle se construit dans l'écriture de soi. Et je trouve que Pierre Manant rend compte de la naissance de la littérature dans ce livre de façon vraiment très importante.
Oui, identité, dites-vous, mais il y a plus quand même que l'identité. Il y a cette phrase extraordinaire de Montaigne, alors pour le coup très audacieuse et très ambitieuse, « Les autres forment l'homme, je le récite ». Il s'agit de l'homme, pas seulement de Montaigne, donc. Marc Fumaroli, dans la diplomatie de l'esprit, oppose précisément l'écriture de Montaigne à l'éloquence classique. Aucune des trois fins que se propose l'art oratoire, plaire, émouvoir, instruire, ne coïncide exactement avec celle des essais, puisqu'il se lance quand même dans une opération de découverte, certes de découverte à la première personne, mais c'est aussi cela, non plus former l'homme, le réciter, c'est-à-dire la littérature élevée au rang de connaissance, comme le dira beaucoup plus tard Hermann Broch. Est-ce que c'est pas en ça aussi qu'on peut dire que Montaigne, avec d'autres, à la fin du XVIe siècle et au XVIIe siècle, fonde ce que nous appelons la littérature, si vous voulez, c'est-à-dire avec le roman aussi, une manière d'aller à la découverte des choses qui ne soit ni celle de la théologie ni celle de la philosophie.
Oui, les autres forment l'homme, ça veut dire les autres parlent malgré tout toujours au nom d'une loi. Ils parlent toujours au nom d'une loi, d'une perspective éducative ou éducatrice. Moi, je vais simplement dire la vie dans son mouvement, la vie telle qu'elle est, sans la référer à une norme extérieure. Cela rejoint ce que nous disions au commencement. Et dire la vie, la faire apparaître à elle-même, devient la tâche. En effet, comme le disait Frédéric Brahmi, cette prise de distance par rapport à la vie qui permet à la vie de se révéler dans son immanence, dans ce qu'elle est, indépendamment de toute norme qu'on lui appliquerait. Et je crois en effet que c'est cela qui fait la littérature et qui fait le caractère toujours problématique de la littérature, parce que les sociétés, y compris la nôtre, vivent selon des normes, et la littérature, dans son ambition la plus audacieuse, consiste à vouloir donner la vie à connaître, à la vie elle-même, d'une certaine façon.
Alors, dernier aspect que je voudrais examiner, c'est ce qu'on appelle en termes contemporains la critique de l'ethnocentrisme chez Montaigne. C'est une des raisons pour lesquelles il est très lu, très apprécié, très connu. Et Montaigne est, avec Rousseau, le penseur dont Lévi-Strauss aime à se réclamer. Mais ma question est simple. Enfin, Montaigne, par-delà ses innovations, ne s'inscrit-il pas dans un mouvement consubstantiel à l'Europe, à l'idée européenne, puisque, après tout, il est né chez les Grecs avec l'enquête d'Hérodote d'Halicarnasse, hein, qui présente précisément cette enquête, afin que le temps n'abolisse pas les travaux des hommes et que les grands exploits accomplis soit par les Grecs, soit par les barbares, ne tombent pas dans l'oubli. Soit par les Grecs, soit par les barbares, disait Hérodote. Chacun appelle barbarie ce qui n'est pas de son usage, dit Montaigne, après la découverte du Nouveau Monde. Est-ce que c'est pas, enfin, est-ce qu'on peut pas justement dire pour finir que Montaigne est un grand européen en ce sens, Frédéric Brahmi?
Alors c'est compliqué parce que on peut dire que Montaigne en effet donne la parole aux barbares, enfin aux cannibales, comme Rousseau donne, fait parler les gueux, hein, fait parler les gueux et aussi les sauvages. Mais je ne pense pas qu'on puisse dire que Montaigne soit le premier grand théoricien du relativisme.
Non.
Culturel.
Non, je dirais pas relativiste, je dis critique de l'ethnocentrisme.
Critique de l'ethnocentrisme, bien sûr.
C'est ça. Oui, oui. Hein,
bien sûr. Mais quand on critique l'ethnocentrisme, on peut le critiquer soit au nom de l'universel, d'un universel abstrait, soit au nom finalement du pluralisme. Alors, dans quel camp se range Montaigne? Moi, je pense que il est ni universaliste abstrait, évidemment, ni pluraliste au sens où chaque culture est une culture, et qu'il essaye de construire, notamment dans son chapitre sur les cannibales, encore une fois, une norme qui permet de juger. Les cannibales sont moins barbares que nous, dit Montaigne, mais ils sont barbares. Hein, nous jugeons bien de l'horreur barbaresque qu'il y a dans le cannibalisme.
Pierre Manant.
Oui, je crois que pour lui, nous vivons tous sous une coutume spéciale, en quelque sorte. L'humanité est faite d'une pluralité de coutumes. Toutes les coutumes sont arbitraires. Toutes les coutumes lèsent la nature. Toutes les coutumes sont à la fois rationnelles et irrationnelles. Et donc, s'il y a une issue vers une vérité qui ne soit pas relative, elle est hors de la coutume, hors de la loi, hors de la vie collective, et elle est dans une quête personnelle, dans une vie selon la nature, dans le jouir loyalement de son être, mais il n'a pas l'horizon, en quelque sorte, d'une vie collective qui rejoindrait un ordre humain normatif. Ce serait se trahir lui-même, n'est-ce pas ? Nos coutumes sont toutes, y compris aujourd'hui, dirait-il, arbitraire. Je crois, arbitraire. Sont toutes arbitraires.
Oui, mais ne dirait-il pas que précisément c'est le fait de l'Europe de reconnaître qu'elle vit sous une coutume et donc, dans cette reconnaissance-là, de prendre une distance avec elle-même qui n'est pas le propre des autres coutumes, puisque les autres coutumes ne se reconnaissent pas comme coutumes. Il n'y a pas ça chez Montaigne, selon vous.
C'est lui qui contribue à instituer cette distance, et peut-être un des premiers à instituer cette distance à soi, oui.
Bien. Alors, justement, ça fait de lui un Européen au sens d'une aptitude à se mettre soi-même en question, pour reprendre une expression de l'échec Kolakowski. Je voulais vous remercier pour cette très belle conversation. Rappelez, Pierre Manant, que vous avez écrit « Montaigne, la vie sans loi » aux éditions Flammarion, et Frédéric Brahmi, un livre intitulé « Le scepticisme de Montaigne » aux presses universitaires de France. La semaine prochaine, l'émission aura pour titre « La médecine face à l'euthanasie ». Mes invités seront Anne-Laure Bock et Bernard Lebeau. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut, avec la collaboration d'Anne-Catherine Nochard et de Didier Lagarde. À la technique aujourd'hui, Jean Frédérix, dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeanneney.